Laudetur Jesus Christus.
Israël sommet de nouveau par les Nations Unies pour mettre un terme aux violences des colons de Cisjordanie. Alors que les yeux sont braqués sur Gaza, il ne faut pas oublier la violence dans les territoires palestiniens. La guerre en Ukraine parmi les sujets au cœur des discussions entre le chancelier Olaf Scholz en visite à Pékin et le président chinois Xi Jinping. Le leader allemand a invité à bâtir une paix juste pour l'Ukraine, nous y reviendrons. Dans ce journal également, nous irons à Olympie en Grèce où la flamme olympique des Jeux de Paris a été officiellement allumée tout à l'heure. Et puis direction aussi la Côte d'Ivoire dans ce journal où les records de chaleur menacent la production agricole, celle du cacao notamment, la principale ressource du pays.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Alors que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza, Israël est une nouvelle fois sommé de mettre un terme aux violences des colons en Cisjordanie. Depuis Genève ce matin, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a exhorté l'État hébreu à cesser d'appuyer les colons les plus extrémistes. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, les agressions de ces colons se sont en effet multipliées. Les précisions à Jérusalem de Valérie Ferrand.
Si les attaques des colons israéliens sont de plus en plus violentes depuis 3 ans, on assiste depuis le 7 octobre 2023 à une escalade particulièrement dangereuse, notamment pour les Palestiniens habitant dans les zones rurales. Depuis vendredi, des centaines de colons israéliens se livrent au quotidien à des attaques contre des dizaines de villages dans toutes les régions de la Cisjordanie occupée, en particulier dans celles de Ramallah et de Naplouse. Partout, les colons armés, sous protection des soldats, ont attaqué des familles dans leurs maisons et en ont même incendié certaines et détruit des enclos après avoir volé leurs animaux. Les colons israéliens ouvrent également de plus en plus souvent le feu contre les familles palestiniennes, notamment les agriculteurs travaillant dans leurs champs. Au total, 464 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre et 4750 autres blessés, la plupart du temps lors des incursions militaires israéliennes, mais également lors des attaques des colons israéliens. Jérusalem, Valérie Ferrand, Radio Vatican.
Olaf Scholz est en déplacement en Chine depuis dimanche, accompagné d'une importante délégation composée notamment de chefs d'entreprise. Le chancelier allemand s'est déplacé pour évoquer les dossiers économiques, mais pas seulement. Lors d'une rencontre avec le président Xi Jinping à Pékin ce matin, Olaf Scholz a déclaré, Alexandra Sirgan, vouloir échanger au sujet de la guerre en Ukraine.
Oui, Olivier, précisément sur la manière de contribuer davantage à une paix juste dans le pays. Selon les services allemands, Pékin n'a en 2 ans de guerre jamais condamné publiquement la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Partisane du dialogue, la Chine appelle régulièrement à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie face à l'OTAN, tout en exhortant au respect de l'intégralité territoriale de tous les pays, l'Ukraine comprise. Un jeu d'équilibriste que le chancelier allemand cherche à faire basculer. Pour convaincre le président chinois, Olaf Scholz a rappelé l'impact très négatif sur la sécurité européenne, affectant ainsi les intérêts fondamentaux de l'UE. De son côté, Xi Jinping a réaffirmé les priorités suivantes: réunir les conditions nécessaires au rétablissement de la paix et réduire les répercussions sur l'économie mondiale. Le président chinois aurait, selon les médias locaux, présenté à son interlocuteur 4 principes pour empêcher la crise d'échapper à tout contrôle. Mais il appelle également, Olivier, à ne pas jeter de l'huile sur le feu.
Merci beaucoup, Alexandra. Et l'Ukraine, où des intempéries ont privé de courant des dizaines de milliers d'habitants ce mardi. Les centrales électriques sont fortement endommagées après avoir déjà été prise pour cible par les frappes russes. Il y a tout juste 8 ans, le 16 avril 2016, le pape se rendait sur la petite île grecque de Lesbos aux côtés du patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée, et de Hieronymos, l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce. Tous les trois visitaient le camp de Moria où sont accueillis des réfugiés. Ils priaient pour les migrants morts durant leur traversée et lançaient aussi des couronnes de laurier en mer. Dans son discours, le pape invitait à lutter contre les causes des migrations forcées. Il ne suffit pas de se limiter à faire face à l'urgence du moment, mais il faut développer des politiques de longue haleine qui ne soient pas unilatérales. Il est encore nécessaire de construire la paix où la guerre a apporté destruction et mort et empêché que ce cancer se répande ailleurs, lançait encore le Saint-Père. Restons en Grèce. Dans 100 jours exactement, s'ouvriront les Jeux Olympiques d'été à Paris. La flamme va pérégriner à travers l'Europe. Elle arrivera dans l'Hexagone le 8 mai prochain à Marseille, à bord du navire navire, le Belém, et entrera dans Paris le 14 juillet. Symboliquement, cette flamme olympique a été allumée tout à l'heure depuis la Grèce et la ville d'Olympie, une tradition à laquelle a assisté notre envoyé spécial Alexia Kefalas.
Le parcours de la flamme olympique a commencé dans une émotion particulière ici à Olympie, avec une cérémonie d'allumage contrariée par le temps et les nuages qui ont couvert les rayons du soleil. Mais cela n'a pas empêché la grande prêtresse d'implorer Apollon, le dieu du soleil, pour que ses rayons, certes crépusculaires, puissent allumer la vasque et ses miroirs paraboliques, et grâce aussi à une flamme de rechange pour aider le miracle. La première torche a été transmise à Laure Manaudou, la nageuse olympique française, par Stéphanos Doskos, le champion grec d'aviron. Puis la flamme va parcourir la Grèce avant de voguer du port du Pirée le 27 avril prochain vers le port de Marseille, où elle arrivera le 8 mai. Elle portera un message d'espoir, de paix, de solidarité, qui en ces temps difficiles de guerre aux portes de l'Europe revêtent un sens particulier, et notamment le sens de la trêve olympique, tant voulu notamment par le président français Emmanuel Macron, qui espère un cessez-le-feu pendant les Jeux olympiques comme il se pratiquait pendant l'Antiquité. Or, quelques 3000 ans plus tard, est-ce que le défi est possible? C'est une question que se posaient les invités d'honneur ici à Olympie. La réponse sera donnée à partir du 26 juillet prochain.
Alexia Kefalas, notre envoyé spécial à Olympie. Un spectaculaire incendie qui rappelle celui de Notre-Dame de Paris. Il y a toujours 5 ans, l'ancienne bourse de Copenhague, la capitale danoise, a été ravagée ce matin par les flammes. Les flammes qui dévorent toujours le bâtiment. La flèche emblématique de ce bâtiment s'est effondrée dans le feu. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Il n'y a aucune garantie que la façade du bâtiment tienne, annonce à l'instant les secours de la capitale danoise. Commandée par le roi Christian IV. Cette bourse de Copenhague avait été construite entre 1619 et 1640 et constituait l'un des édifices les plus anciens de la ville. Une alerte canicule à Mexico. Le directeur de la Commission nationale de l'eau a commenté la vague de chaleur qui frappe la capitale mexicaine depuis plusieurs jours. Le thermomètre est monté à plus de 34 degrés hier. 8 États mexicains et le golfe du Mexique sont également concernés, avec des températures qui pourraient dépasser les 45 degrés. Une autre vague de chaleur touche ces jours-ci la Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis le début de l'année, la hausse extrême des températures a des conséquences sur les rendements agricoles du pays. Le secteur du cacao, notamment, qui est le moteur de la Côte d'Ivoire, s'en trouve affecté, ce qui pourrait déteindre sur l'économie du pays. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Mohamed Lamine.
Entre janvier et mars dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré des records de températures dont le pic était de 41 degrés, soit 6 de plus que la moyenne habituelle. La conséquence immédiate de cette chaleur est une sécheresse plus rude qui fait chuter les rendements des exploitations agricoles. Plus précisément, le cacao, dont la Côte d'Ivoire fournit 40% de la production mondiale, représente le poumon de l'économie nationale. Il contribue au PIB à hauteur de 15 à 20%. Or, selon l'organe chargé de la régulation de la filière, la baisse de la récolte cacaoyère est estimée à 25% cette saison. En novembre dernier, un rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement en Côte d'Ivoire soulignait que les secteurs essentiels à la croissance du pays étaient menacés par le changement climatique, dont la hausse des températures. Ce rapport précise par exemple que les conséquences climatiques pourraient entraîner une baisse du PIB réel jusqu'à 13% d'ici 2050, ce qui serait également un obstacle à la sortie de plus d'1,5 million de personnes de la pauvreté. Des réformes sont engagées par la Côte d'Ivoire pour contrecarrer tout ceci avec l'aide et le financement du FMI et de la Banque mondiale. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies en visite ce mardi à la frontière entre les deux Corées. Linda Thomas Greenfield s'est rendue dans la zone démilitarisée mais très surveillée entre les deux voisins. Elle a exhorté Pyongyang à s'asseoir à la table des négociations. La diplomate américaine a expliqué n'avoir aucune intention hostile vis-à-vis du régime nord-coréen, estimant maintenir la porte ouverte à une diplomatie constructive, ouverte au dialogue. Fin de citation. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que le pape François a nommé un nouveau nonce apostolique pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de Mgr Mitja Leskovar, un prélat de nationalité slovène qui était jusqu'ici nonce apostolique en Irak. Un nouveau représentant du Saint-Siège est également nommé pour l'Afrique du Sud et le Lesotho. Il s'agit de Mgr Henryk Mieczysław Jagodinski, de nationalité polonaise, qui représentait jusqu'ici le Saint-Siège au Ghana. Et toutes ces informations seront à retrouver, bien sûr, sur notre site vaticannews.va. L'information, elle reviendra comme chaque jour à 18h en direct de Rome. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente après-midi.